Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Et maintenant, on va parler politique. On a eu la chance de rencontrer Thierry Mariani, votre député de la 11e circonscription, si vous êtes français, donc député des Français de l'étranger. Il était à Sydney, il parle à Bertrand, il nous fait le bilan de ce qu'il se passe en ce moment pour lui, puisque vous le savez, il y a les élections législatives qui arrivent d'ici quelques semaines. On écoute Thierry Mariani. Comment se sent-il aujourd'hui dans le nouveau cercle de la politique française?
On ne sait plus où on est. On a un président qui est issu de la gauche. Je veux dire, Monsieur Macron, soyons sérieux, il a été conseiller de Hollande pendant 2 ans, il était secrétaire général de l'Élysée et ministre de gauche. Voilà, on a un premier ministre qui est de droite. On a un gouvernement où les 4/5 des ministres sont de gauche et 1/5 est de droite. Et en réalité, on ne sait plus tellement comment employer le vocabulaire, parce que Édouard Philippe, Premier ministre, il est de ma formation politique. Bref, quel sera mon positionnement aux élections législatives? Mon positionnement, il changera pas. C'est-à-dire, moi, je suis traditionnellement attaché aux valeurs du centre et de la droite. Mais chaque fois qu'il y a eu un texte intelligent à l'Assemblée, même s'il venait pas de mon bord, j'ai toujours voté. Parce que j'estime que notre pays est dans une telle situation que toutes les réformes qui vont dans le bon sens, il vaut mieux les prendre aujourd'hui qu'attendre le grand soir. Et par exemple, je vous rappelle que j'étais l'un des 10 députés de droite à avoir dit au moment de la fameuse loi Macron que j'étais prêt à la voter. Parce que tout simplement, même si elle était insuffisante, même si elle avait pas, elle manquait d'ambition, c'était un petit pas dans la bonne direction et que c'était bon à prendre. Donc je me présente sous les couleurs des formations des partis républicains de l'UDI. C'est-à-dire que j'ai l'investiture du parti de droite, j'ai l'investiture du parti centriste et je suis le seul. Mais je me présente en disant toujours que j'ai toujours été un député libre qui, quand il l'estimait, reprenait, j'allais dire... moi, j'ai la France en tête. C'est un peu mon slogan. C'est de dire je regarde ce qui est bon pour la France. Voilà. Si c'est bon pour la France et que c'est proposé pour la gauche, ben, tant mieux. Faut autant le prendre. Si c'est proposé par la droite, tant mieux. Mais essayons d'éviter tout sectarisme.
Et vous êtes candidat pour donc la 11e circonscription des députés de l'étranger, député sortant. Donnez-nous un bilan de votre mandat qui vient de s'écouler.
Quand j'ai été élu il y a 5 ans, j'entendais les gens qui me disaient « Oui, on le voit pour la campagne, il foutra jamais les pieds dans les pays. Il restera à Paris. » Mon bilan, d'abord, c'est d'un député qui a été totalement présent sur le terrain. Je suis venu en Australie en moyenne entre... 3 et 5 fois, j'ai pointé selon les années. Sauf que l'Australie, vous le savez mieux que moi, est un pays où, pour couvrir toutes les communautés qui entre Perth, Adélaïde, Sydney, Melbourne, Canberra, Gold Coast, Brisbane, bref, à chaque fois, je fais 2 ou 3 villes. Donc j'ai été un député extrêmement présent sur le terrain, 8 semaines sur 9 chez l'étranger. Après, mon travail à l'Assemblée, c'est facile aujourd'hui avec Internet de vérifier si j'ai vraiment bossé ou pas. Le magazine économique Capital a sorti son classement en fonction du nombre d'interventions, enfin d'une dizaine de critères. Je suis, de mémoire, 65 ou 66e sur 577. C'est-à-dire, en clair, dans les 10%, enfin dans les meilleurs, dans les mieux classés. Voilà, donc j'estime avoir, en termes d'activité, après on est d'accord ou pas d'accord avec les options politiques que je défends, mais j'ai été en tout cas un député qui a honoré son mandat. À savoir, j'étais présent à l'Assemblée parce qu'on oublie que pour quand on est élu député, c'est bien de venir voir les Français à Sydney, Brisbane ou Melbourne, mais le cœur de la fonction, du métier, j'allais dire, c'est d'être 3 jours ou 2 jours et demi par semaine à Paris et donc au Parlement. Et donc ma semaine type, c'est de partir dans la nuit du mercredi ou du jeudi matin pour l'Asie ou le Pacifique et de rentrer le mardi matin à 6h à Paris, ce qui me permet de faire mardi, mercredi et jeudi matin à l'Assemblée qui sont les temps forts et où en réalité tout se passe. Voilà. Donc j'ai été un député qui a occupé, je pense, sa fonction avec sérieux et voilà pourquoi je me représente aussi. Vous savez, on est dans une campagne électorale extraordinaire. Dans cette circonscription, il y a 14 candidats. À ma connaissance, il y en a 3 qui tournent, c'est-à-dire 3 qui vont voir les Français. Le candidat socialiste, Florian Bohème, qui tourne, qui sera, je crois, en Australie dans pas longtemps. Il y avait un candidat qui était au départ socialiste et puis qui après a essayé de se raccrocher à Macron et qui puis finalement s'est arrêté, Mathias Assante. Mais en dehors aujourd'hui du candidat socialiste et de moi, vous n'avez vu, je pense, aucun autre candidat. Personne tourne. C'est, voilà. Alors moi, je pense aussi qu'on peut pas être un député Internet, quoi. Internet, c'est bien, mais pour représenter les Français, il faut aussi de temps en temps discuter avec eux, connaître leur programme, etc., quoi. Être député, c'est pas appuyer sur un like ou sur un j'aime.
Et quels sont les défis qui se présentent à cette donc, parce que c'est la plus grande circonscription, je crois, au monde. C'est pas seulement en France, mais une circonscription qui couvre la Russie, déjà le plus grand pays au monde, et puis qui s'étale jusqu'en Australie, la plus grande île au monde. Géographiquement, c'est la plus grande circonscription. Eh bien, quels sont les défis qui se présentent et comment est-ce que vous comptez relever ces défis?
Ben d'abord, le premier défi, c'est de remplir le contrat, si je puis dire. Le contrat, c'est d'être 2 à 3 jours par semaine au Parlement, comme je vous le disais, et c'est d'être dans une circonscription, vous l'avez bien décrite, qui est gigantesque. Puisque, en réalité, chaque circonscription des Français de l'étranger est découpée pour représenter 150 000 Français. Et quand je dis 150 000 Français, ce sont les Français inscrits au consulat. Prenons un exemple, l'Australie, on dit il y en a 80 000, il y en a 100 000, il y en a 70 000. En réalité, il y en a moins de 30 000 inscrits au consulat. Et c'est le seul chiffre qui compte. Donc dans cette circonscription, qui est gigantesque, puisqu'elle comprend tout le Pacifique, toute l'Asie, toute l'ex-Union soviétique et l'Iran. 11 fuseaux horaires, 49 pays. Donc le premier défi, c'est d'être à la fois, j'allais dire, au Parlement et à la fois présent sur le terrain. Ça, c'est presque, je vais vous faire sourire, mais j'allais dire, la première qualité du député de cette circonscription, c'est qu'il doit être en forme.
Pour vos électeurs, qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce qui les concerne le plus? Parce que on entend souvent des problèmes au niveau des écoles, au niveau des assurances, au niveau des indemnités sociales et des choses comme ça.
C'est pas qu'un défi pour moi, c'est un défi pour la fonction. Voilà. C'est-à-dire que les vrais problèmes des Français de l'étranger, je vais y revenir, il faut pouvoir aussi avoir les moyens de les défendre. Et donc les vrais problèmes des Français de l'étranger aujourd'hui, il y en a 3 ou 4. Il y a d'abord, pour beaucoup, un sentiment d'injustice fiscale. Le gouvernement socialiste qui est parti a mis en place un certain nombre de mesures qui frappent uniquement les non-résidents français. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que tout simplement ces mesures soient supprimées et que les résidents et non-résidents soient traités de la même manière, ne serait-ce d'abord qu'en ayant la France en tête, qu'en ayant justement l'intérêt de la France en préoccupation. Parce qu'aujourd'hui, si je suis expatrié en Australie ou en Nouvelle-Zélande et que je veux investir, si j'investis en France parce que je suis non-résident, l'État va me prélever 40% des loyers. Ben, conclusion, je vais investir ailleurs. Est-ce que c'est intelligent pour la France? La réponse est non. Deuxième problème, deuxième défi, c'est l'école. Vous avez la chance en Australie d'être dans un pays où la langue nationale est l'anglais. Et donc forcément, avoir une scolarité en anglais, c'est même plutôt intéressant. Mais pour toute une série d'autres pays où c'est des langues, on va dire, beaucoup moins pratiquées, si on veut que nos enfants aient une chance, il vaut mieux qu'ils soient au lycée français. Parce que ils apprennent bien sûr l'anglais et le français, etc. Et donc, le deuxième défi, c'est maintenir ce réseau et maintenir l'accessibilité du réseau. Les frais de scolarité ont explosé. Les établissements commencent à avoir besoin d'agrandissement. Or, aujourd'hui, les aides qui ont été accordées ces 5 dernières années au réseau ont été en baisse pour la première fois depuis 30 ans. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que ce gouvernement socialiste qui a fait de vrais efforts sur l'éducation nationale en France a, au contraire, volontairement sacrifié les expatriés en baissant les moyens sur les expatriés. Troisième défi, c'est un défi, à mon avis, sur la protection sociale. Alors là aussi, en Australie, vous êtes dans un pays organisé, vous êtes dans un pays où il n'y a pas de... où quelqu'un qui veut s'assurer a les moyens, mais c'est pas le cas partout. Tout simplement, on constate que de très nombreux expatriés, notamment les jeunes, sont pas assurés. Alors on sait très bien que quand on a 20 ans, on est immortel et il n'y a aucun accident qui peut nous arriver. Malheureusement, chaque semaine, j'ai le cas d'un garçon qui se fait renverser au Laos, de quelqu'un qui a eu un accident de voiture au fin fond du Kazakhstan. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune couverture sociale. Donc voilà, les 3 principaux défis, à mon avis, sont ceux-là. La fiscalité, égalité avec les résidents. La scolarité, maintenir l'accès pour les familles. Et d'autre part, l'accès à une protection sociale, même pour ceux qui n'en ont pas les moyens. Et si vous me permettez, en réalité, tout ça, il y a même un défi qui nous rassemble tous les députés, les Français de l'étranger, c'est faire aussi comprendre à nos collègues français que quand on est à l'étranger, on n'est pas forcément un mauvais Français, on est quelqu'un qui peut apporter sa pierre à la France. Parce que, regardez, on est dans un restaurant, le Gavroche. J'ai discuté avec le patron, il m'expliquait qu'il importait ses produits de Lyon. Eh ben, il paye peut-être pas ses impôts en France, mais il fait travailler des producteurs français. Voilà, je pense qu'il y a un défi aussi pour nous, qui concerne pas les expatriés, qui est d'être aussi, j'allais dire, leur avocat, en disant à mes collègues, qui ont peut-être pas la même vision de l'international que nous, bien sûr qu'il y a les Français de France, mais il y a aussi les Français de l'étranger. Les Français de l'étranger, ben, ils ont un intérêt pour la France, ils ont un intérêt pour notre économie, ils ont un intérêt pour notre ouverture culturelle. C'est des gens qui font l'aller-retour, voilà. Et ça, il faut continuer à faire passer le message, parce que très souvent, ça passe pas.
Et au niveau des élections, on a entendu des plaintes des électeurs qui ont dû passer des heures et des heures pour pouvoir voter, parce qu'il n'y a plus de vote électronique, alors que au niveau des primaires, de la droite et de la gauche, ils ont pu voter électroniquement, mais ils peuvent plus le faire au niveau des élections nationales.
Ben, vous savez, je suis très surpris par ce qu'a fait ce gouvernement. Il y a 5 ans, aux élections législatives, on avait pu voter par Internet. Moi, j'étais dans l'équipe qui avait monté auprès de Nicolas Sarkozy ces élections, et on avait voulu absolument qu'il y ait Internet pour que les Français de l'étranger puissent s'exprimer. Le gouvernement a décidé de supprimer le vote par Internet il y a un mois et demi. C'est totalement hallucinant et totalement... j'allais dire stupide. Hallucinant, pourquoi ? Parce que le motif tient pas. Vous l'avez dit vous-même, le Parti Socialiste et les Républicains ont organisé leur primaire par Internet, avec le même prestataire. Et que ce soit au Parti Socialiste ou que ce soit aux Républicains, ça a très bien marché. Donc il y avait une société qui avait fait le boulot, qui était française, il suffisait de la reprendre, il suffisait de travailler avec elle, etc. Au lieu de ça, le Quai d'Orsay s'est lancé dans, comme d'habitude, a voulu tout réinventer. Résultat, c'est une société espagnole qui a été choisie et qui a pas réussi à monter ce qu'il fallait. Voilà. Ensuite, les risques de hackers. Il y a toujours des risques de hackers. Vous savez, moi, je viens de payer mes impôts là, il y a 48 heures par Internet. C'est bizarre, mais pour payer les impôts, il y a jamais de risque de hackers. Et puis, soyons sérieux, il y a des pays là aussi comme l'Estonie, qui a un grand voisin qui s'appelle la Russie, avec qui il n'a pas de bon rapport, qui organise toutes ses élections, y compris les présidentielles, par Internet. Et il arrive à se protéger. Ce qui arrive à faire l'Estonie, la France n'en est pas capable. Voilà. Et puis, vous êtes en Australie. C'est avec la Russie, peut-être, le pays où c'est le plus évident. On va avoir 4-5 bureaux de vote dans le pays. Enfin, 4-5 villes où il y aura des bureaux de vote. Il y en a des fois plusieurs. Mais regardez, j'étais hier à Perth. Il y avait un Français d'Albanie. Il me disait, moi, je vais pas venir deux fois. Enfin, c'est extrêmement long. Le vote par Internet, c'était la solution. Donc, première remarque, il faut rétablir le vote par Internet parce que c'est le seul moyen que les expatriés puissent s'exprimer. Et ce gouvernement a rien fait. D'ailleurs, M. Macron a été un peu silencieux à ce moment-là. Deuxièmement, il y a l'organisation pratique du vote. Les services diplomatiques ont fait le maximum, je pense, mais ils ont été un peu débordés. Ici, il y a eu des problèmes, mais ils n'ont pas atteint le niveau de ce que ça a atteint en Afrique, en Amérique du Nord. Donc, je sais que grâce aux conseillers consulaires, on en parlait avec Sébastien Valéry et Bernard Le Boursicot, là, il y a quelques minutes, le consulat a pris compte des problèmes. J'ai personnellement écrit au ministère des Affaires étrangères. Et donc, normalement, ça devrait mieux se passer aux élections législatives. Voilà.
En parlant de hackers, c'est une question subsidiaire, une question qui intéresse quand même les gens. On parle beaucoup de hackers russes,
oui.
Et intervention au niveau de sabotage de la campagne de Macron. On parle de hackers dans les élections américaines. Est-ce que la crainte d'une influence russe sur les élections aurait influencé peut-être le choix de ne pas voter électroniquement?
Je sais que M. Macron s'est plaint à un moment de risque des hackers russes. Très franchement, je pense que s'il y avait eu des hackers russes, ils auraient été un peu plus efficaces. Voilà. Deuxièmement, pour travailler à la Commission des Affaires étrangères, et je ne veux pas trop en dire, mais vous comprendrez entre les lignes, à plusieurs reprises, on a auditionné les représentants des services spéciaux français. Et eux-mêmes ont été très honnêtes. Ils ont dit 9 fois sur 10, on est incapable de dire d'où ça vient. Incapable. On est incapable de dire d'où ça vient. On est capable de dire d'où ça vient, mais on ne sait pas qui est le commanditaire. Parce qu'en réalité, vous savez comment ça se passe. C'est en réalité toute une série d'ordinateurs qui sont pénétrés sans qu'on le sache et qui, à l'instant T, font converger des milliers, des centaines de milliers, des dizaines de milliers de connexions vers un point, ce qui bloque tout. Et donc, quand vous regardez, ça vient du monde entier. Mais donc, à l'origine, on ne peut pas savoir si le commanditaire est russe ou pas russe. Il peut être chinois, il peut être... Et puis, on ne peut pas savoir si le commanditaire est un État ou un privé. Voilà. Donc, en réalité, bon, je pense sans méchanceté que ces hackers russes arrangent tout le monde. Je constate simplement que dans la dernière grande attaque où Renault a été saboté, voilà, si j'ai bien compris, il y a même deux ministères russes qui ont été visés. Donc après, peut-être que les Russes sont masochistes et se visent eux-mêmes. Voilà. Voilà, je crois qu'il y a une menace informatique. Désormais, il faut, comme il faut apprendre à se garantir sur sa sécurité physique, il faut apprendre à se garantir sur sa sécurité informatique. Après, je pense que les Russes ont bon dos. Je suis persuadé que la CIA n'est pas aussi totalement innocente par moment, pas plus que les Chinois.
Et voilà, on est quand même, avant, pour conclure, on est à la veille d'un moment historique. Les gens sont déboussolés. Un petit pronostic de ce qui va peut-être se passer après les élections ?
J'en sais strictement rien. Je vais vous dire la vérité, c'est la première fois où moi aussi je suis déboussolé. Je pense qu'on joue un jeu sympathique mais dangereux en France. Souvenez-vous de votre première question, et je vous y ai répondu, je ne sais plus où on est. Hein. Quelle est la majorité, quelle est l'opposition, quelle est la majorité présidentielle ? Quel est le danger ? Je pense qu'à un moment, pour une démocratie, il faut une majorité et une opposition. Parce qu'à vouloir tout mettre ensemble et tout mélanger, eh ben on finit à ce que l'opposition, ce soit les extrêmes. Quelle impression ça donne aujourd'hui en France ? Ben ça donne l'impression qu'il n'y a qu'une opposition qui est Madame Mélenchon, qui est Monsieur Mélenchon, pardon, ou Madame Le Pen. Voilà. Et je trouve que c'est ça le vrai danger. C'est-à-dire, j'espère que ce que tente Monsieur Macron va réussir. Pour le moment, excusez-moi, j'ai plus l'impression que c'est du débauchage. Il y a deux ministres de droite sur 20 et quelques, et c'est tout. Mais ça donne l'impression, j'écoutais Marine Le Pen hier soir qui disait, ben vous voyez bien, hein, ils sont tous ensemble, on est la seule opposition. Voilà. Vous savez, Marine Le Pen a fait 17% il y a 5 ans. 22 ou quasiment 23 cette fois. La fois prochaine, si on donne l'impression qu'on est tous ensemble, elle sera la seule opposition. Voilà. Donc je suis imprévisible. Je dis simplement, je souhaite le succès de ce gouvernement. Parce que c'est mon pays, voilà, c'est tout. Quoi. J'ai pas envie que dans mon pays, j'ai envie que mes gosses ils trouvent du boulot, j'ai envie qu'ils aient moins de, qu'on leur laisse moins de dettes et tout. Bon, je ferai tout pour, mais je ne suis pas dans la majorité présidentielle. Je suis dans une, j'allais dire dans une majorité projet par projet, voilà. Et comme je l'ai dit, je serai un soutien à chaque fois que les projets sont intelligents et je les combattrai chaque fois que je les juge inquiétants. Je pense notamment qu'en matière économique, quand je regarde ce que propose Monsieur Macron, il y a l'essentiel, je peux le voter. Je pense que sur d'autres sujets, c'est beaucoup plus délicat.
Monsieur Mariani, en tout cas, bonne chance. Merci. Et merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Merci beaucoup.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.